Oui, bonjour. Donc, nous allons continuer cette série de 10 enseignements clés. Donc, c'est l'ADN du tabernacle, hein, la différente thématique qui revient souvent au sein de notre Église. Donc, nous avons vu le royaume de Dieu, c'est le message central des prophètes, le message central eh bien, de Jésus-Christ ainsi que des apôtres. Nous avons vu aussi le royaume de Dieu et la moisson. La moisson, ce sont les fils et les filles du royaume, vous voyez, qui deviennent semences dans le monde, hein, qui viennent dans cette maturité spirituelle. Et nous avons vu, eh bien, le royaume et l'Ecclésia. Jésus a pu dire dans Matthieu, chapitre 16, verset 18, « Je bâtirai mon Ecclésia ». Et nous avons vu que le terme « Ecclésia », eh bien, n'est pas... ne veut pas dire une communauté religieuse. Je rappelle que Jésus n'est pas venu instaurer une religion, mais un royaume. Et l'Ecclésia, eh bien, c'est plus un terme politique qui nous parle d'autorité, qui nous parle de gouvernement, qui nous parle, voyez, d'assemblée, de parlement, de citoyens, eh bien, qui ont cette capacité pour pouvoir légiférer et pour pouvoir gérer, eh bien, une ville. Donc Jésus a pu dire « Je bâtirai mon Ecclésia ». Et donc nous avons vu que Jésus n'a pas utilisé le mot « synagogos », »,« synagogue », qui est plus la notion d'une communauté religieuse qui est enfermée, qui tourne autour d'elle-même. Mais Jésus a pu parler sur eh bien, l'Ecclésia. Alors un texte qui est fondateur et qui est très important, c'est dans Actes, chapitre 2, versets 46 à 47, et je vous invite non seulement à écouter, mais aussi à méditer. Vous avez le format papier. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Il était une fois une église qui fonctionnait. Ses membres s'aimaient les uns les autres, prenaient soin des veuves et des orphelins, nourrissaient les affamés, transformaient les villes. Cette église enseignait la Bible, amenait les croyants à maturité et satisfaisait le désir ardent de leur cœur de toucher Dieu. Voyez ? Cette église ne faisait pas seulement que de parler de la puissance de Dieu, elle guérissait les malades, elle ressuscitait les morts et chassait les démons. Elle gagnait les perdus avec une efficacité incroyable, faisait de ses convertis des disciples et les équipait pour le ministère. Son efficacité n'était pas limitée à une culture ou un groupe ethnique. Elle grandissait avec un pouvoir explosif, quel que soit l'endroit où elle était implantée. C'est l'Église que nous cherchons tous, mais malheureusement, nous ne la trouvons pas. Une Église que ni vous ni moi n'avons jamais vue, mais que je crois de tout mon cœur, nous allons bientôt eh bien, la voir. On l'appelle l'Église primitive, l'Église du Nouveau Testament, l'Église du premier siècle, l'Église des Actes des Apôtres. C'est l'Église que Dieu a voulu. Cette merveilleuse Église n'était pas un mythe ou un conte de fées, elle a vraiment existé. C'était une Église composée de vraies personnes avec de vrais problèmes et elle était caractérisée par une vie, une puissance auquel le monde ne pouvait résister. Et nous voyons dans le livre des Actes eh bien, une Église en croissance. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu sur 120 personnes dans la ville de Jérusalem et à la fin de ce même jour, la jeune église avait grandi jusqu'à 3000 hommes et femmes dans Acte 2. Donc il s'agit de l'église de Jérusalem. Au bout d'une année, l'église avait plus que triplé, ayant atteint plus de 10 000 personnes. Certains historiens estiment qu'au moment du martyre d'Étienne, 2 années plus tard, l'église de Jérusalem avait grandi jusqu'à atteindre 20 000 membres. Nous voyons aussi l'église d'Éphèse. Acte 19 indique que Paul est allé à Éphèse et il a commencé une nouvelle église et il est resté 2 ans sur place pour enseigner les nouveaux convertis. Pendant ces 2 années, non seulement toute la ville d'Éphèse a été évangélisée, une ville d'environ 200 000 personnes, mais toutes les villes dans la province environnante furent également touchés. Voyez, l'église d'Éphèse grandissait si rapidement que l'économie de la ville en fut affectée et les fabricants d'idoles perdaient des affaires. Et il y a eu toute une opposition par rapport, eh bien, aux disciples de Jésus-Christ dans cette ville. Pouvez-vous imaginer l'église d'aujourd'hui avoir ce genre d'impact sur la ville par la puissance, eh bien, du Saint-Esprit? À son apogée, il se peut que l'église d'Éphèse ait atteint 100 000 membres. Les premiers chrétiens ont littéralement pris la ville. Idem pour l'église d'Antioche. 80 ans après la Pentecôte, l'auteur romain Pline écrivit une lettre à l'empereur Trajan. Les temples des dieux païens sont presque totalement abandonnés et les chrétiens sont partout une multitude. Vous voyez, acte 17, verset 6. Ces hommes qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Alors, quelle est cette question? Pourquoi ce décalage entre l'église des actes des apôtres, ou l'église du Nouveau Testament, ou l'église primitive, et celle d'aujourd'hui? Beaucoup souhaiteraient vivre cette dimension de simplicité et de foi puissante, de sainteté, de fraternité, cette passion missionnaire, cette révélation de Dieu et du monde céleste. Nous constatons que nous sommes à une certaine distance de cela. Nous avons des églises avec des gens préoccupés par eux-mêmes, sans objectif passionné du plan de Dieu. La tradition a tant réformé les choses qu'il nous faut désapprendre et réapprendre ce qui est mis en lumière dans la parole de Dieu, dans la fraîcheur et la vitalité du Saint-Esprit. Voyez, il nous est parlé, eh bien, d'une réforme, ce qu'on appelle la réforme apostolique. Et voyez, dans Éphésiens chapitre 4, verset 13, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Voyez, donc les cinq ministères, cette notion de vision apostolique et prophétique, cette notion du quintuple ministère, eh bien, est là pour justement amener l'Église à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Éphésiens 5, 27, « Christ est mort afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Vous voyez, nous sommes dans un processus de rétablissement de toutes choses, de restauration où le Seigneur est en train de parfaire son Église. Il est le sauveur de l'Église, il a aimé l'Église, il s'est livré pour elle et il se sanctifie pour que son Église parvienne à non seulement une maturité mais aussi à une sainteté. Dans acte 2 verset 9, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Voyez, dans acte 3, versets 19 et 21. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur qu'il envoie, celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. » Vous voyez, on parle de temps de rafraîchissement, des temps de réveil, de visitation. On parle aussi de temps de rétablissement ou de temps de restauration. Vous voyez, restauration, c'est remettre en place ce qui lui manque, ce qui est absent. Ramener une chose à sa qualité originelle. Redécouvrir des vérités bibliques oubliées. Chaque phase de restauration est née de la repentance et d'un retour vers la révélation des Écritures dans une nouvelle rencontre avec Dieu. Calvin avait compris cette dynamique de réforme, de restauration, de rétablissement des vérités bibliques. Les réveils successifs ont été accompagnés de remises à jour de vérités délaissées. L'Église doit être réformée, disait-il Calvin, à chaque fois que par l'Esprit les Écritures nous envoyons la nécessité. Chers amis, lorsque nous voyons l'état de l'Église, eh bien, nous avons besoin de prier pour un réveil et pour une réforme. Parce que, au travers de l'esprit des Écritures, nous voyons que nous sommes en décalage avec la vie de l'Église primitive, qui n'était pas une Église parfaite. Il y avait des tensions, il y avait des pressions, il y avait des défis qui étaient là. Mais nous voyons que l'Église était dans un mouvement missionnaire, dans un mouvement apostolique. Nous voyons les fonctionnements des différents ministères, vous voyez, l'implantation des nouvelles Églises. Alors, quel est le déclin de l'Église, vous voyez, dans l'histoire de l'Église? À quoi c'est dû? Au début, il y avait un projet divin, des objectifs clairs, une structure biblique était là juste pour soutenir un projet divin et l'amener à bon port. Mais peu à peu, eh bien, l'Église s'est éloignée de ce projet divin. Et je vous invite à lire le livre de Robert Etler, « L'Église messianique se lève ». Et vous allez voir que dans au 4e siècle, dans les années 300-330, eh bien, avec la venue de l'empereur Constantin, nous voyons que là, eh bien, l'Église a commencé à, voyez, s'institutionnaliser. Voyez, Jésus n'est pas venu instaurer la religion chrétienne, une religion, mais établir un royaume. Et l'Église, l'Ecclésia, est là comme le peuple du royaume. Voyez, ça n'avait rien à voir avec la religion. Et voilà que le levain de la religion est venu ensemencer les cœurs, et peu à peu, il y a eu un déclin de l'Église. La première chose, c'est la perte de nos racines juives. Cela signifie la perte de la vision biblique du monde, du système de valeurs que Dieu avait construit dans son peuple d'Israël. Cela a porté à l'Église une façon complètement différente de considérer Dieu, la Bible et la vie chrétienne. Vous voyez, perte de l'attitude hébraïque envers Dieu par rapport à la crainte de Dieu, à la sainteté de Dieu. Perte de l'attitude hébraïque envers les Écritures, perte de ce respect, perte de l'insistance judaïque sur la vie spirituelle à la maison, la centralité de la famille, de la transmission générationnelle, perte de l'attitude hébraïque envers la vie, voyez. Peu à peu, la vision biblique du monde que nous trouvons dans le livre, dans la parole de Dieu, nous nous sommes inspirés plus du monde gréco-romain pour hiérarchiser, pour amener cette vision de pyramide, de l'institution, de la religiosité, voyez. Et ce n'est pas une vision biblique. Donc nous avons perdu la vision biblique, voyez, de nos racines juives. Non pas pour retourner dans le judaïsme, mais pour s'inspirer, eh bien, des principes de la vie, des principes de la transmission générationnelle dans la famille, de la crainte de Dieu, de l'autorité des Écritures, de la sainteté de Dieu. Ensuite, on a perdu, voyez, l'établissement d'une structure avec la disparition des cinq ministères, selon le modèle d'origine avec les cinq ministères, nous allons en parler. Abandon progressif du caractère charismatique avec les dons et les ministères qu'ils eurent de moins en moins de place. Voyez, toute la vie prophétique, la vie du Saint-Esprit a été peu à peu éteinte. Voyez, en 130 après Jésus-Christ, décision du concile d'arrêter l'imposition des mains. 140 après Jésus-Christ, décision du concile d'interdire le prophétique. 150 après Jésus-Christ, perte des dons de l'esprit, le latin devint la langue de l'Église occidentale. Et peu à peu, je dirais, il y a eu, vous voyez, comme une élite qui s'est formée, comme un clergé qui s'est formé. Il y avait des alliances entre la religion et la politique, vous voyez. Et peu à peu, nous avons perdu la force de la piété, nous avons perdu, eh bien, cette puissance et cette vie, eh bien, de la première Église. Il y avait un compromis, une adaptation au milieu idolâtre ambiant, d'où l'éloignement de la sainteté par rapport à toute cette idolâtrie, ce polythéisme, voyez, que nous avons pris, eh bien, notamment de la société grecque et romaine, avec ses différents dieux, voyez. Ensuite, un baptême d'eau qui n'était plus un acte de foi personnelle. Les gens devenaient chrétiens parce que en voulant, je dirais, acquérir, eh bien, des droits au niveau, voyez, des citoyens, au niveau des social. En 188 après Jésus-Christ, Eh bien, décision du Concile d'instaurer le baptême par l'aspersion. Voyez. Ensuite, la justification par la foi remplacée par le salut, par des rites et des œuvres méritoires. Par exemple, vous avez tous entendu parler des indulgences. Où, eh bien, au XVIe siècle, on payait, voyez, l'Église pour racheter des années du purgatoire, voyez. Il y avait tout un mélange, un compromis, voyez, la puissance politique, puissance religieuse, la puissance financière, le règne du pouvoir, voyez. Et l'Écriture n'était plus la règle de foi. On empêchait les gens de lire la parole de Dieu. Voyez, donc c'était au XVe siècle, c'était le chaos total. Hein. Et peu à peu, eh bien, alors qu'il y a eu le déclin de l'Église, hein, un éloignement par rapport à la vie, aux vérités premières de l'Église, au fondement même de l'Église, eh bien au XVe siècle, c'était le chaos total. Et peu à peu, ce qu'on appelle la restauration de l'Église, voyez, c'est un mouvement de restauration. Mais grâce à Dieu, on a commencé de retrouver ces vérités perdues et dans l'ordre inverse. Vous voyez, l'Écriture comme autorité en matière de foi, notamment au niveau de la réforme avec Luther, restauration de la lecture de la Bible dans un langage du peuple, vous voyez, on a redécouvert la notion eh bien, des Écritures seules, vous voyez, la parole de Dieu, le juste vivra par la foi. La justification par la foi, le salut par grâce et non pas par des œuvres ou par des rites, par des mérites. Le baptême, vous voyez, des confessants, des professants, des croyants par immersion. Vous voyez. Donc il y avait celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé avec une pleine connaissance d'un engagement à être disciple de Jésus-Christ. La séparation du monde et une vie de sainteté, vous voyez. Donc peu à peu, ce sont comme des vagues, des mouvements de vagues de restauration. On a redécouvert la centralité des Écritures, la justification par la foi, le salut par la grâce, le baptême par immersion, la sainteté. On a redécouvert la restauration de la prière. Vous voyez, il y a eu des mouvements de prière, il y a eu des mouvements aussi missionnaires. Le baptême dans le Saint-Esprit et l'Esprit et l'exercice des dons spirituels. On a redécouvert tout à fait, tout à nouveau, la puissance eh bien, de la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu sur la terre et qui manifeste la volonté du Père, qui nous rappelle les paroles de Jésus, voyez. Restauration de la louange, il y a eu des mouvements de louange et d'adoration. Nous avons aussi dans ces dernières 20 à 30 ans, voyez, le principe des cinq ministères. On a redécouvert des ministères d'évangélisme comme Reinhard Bonnke par exemple, hein, des ministères pastoraux, des ministères d'enseignants. Voyez, on a redécouvert la réalité de ces différents ministères, des ministères aussi eh bien, prophétiques et aussi des ministères apostoliques. Voyez, Dieu a restaurer ces différentes eh bien, ministères, voyez, et là nous sommes aussi dans cette reconnexion avec nos racines juives, non pas voyez, un retour vers le judaïsme hein, que dénonçait vers la loi, que dénonçait Paul dans le livre des Galates, mais par rapport à la vision du monde, à la vision de la vie, à la vision de la création de Dieu, la vision de l'homme, voyez. La vision des relations humaines, de la famille, de la crainte de Dieu, de la souveraineté de Dieu, de l'histoire, voyez, tout cela, eh bien, peu à peu, eh bien, nous sommes dans cette restauration. Voyez, il y a un voile sur les yeux, eh bien, des Juifs, hein, parce qu'ils ne reconnaissent pas, eh bien, Jésus-Christ comme leur Messie, mais il y a aussi un voile sur l'Église qui ne reconnaissent pas bien la réalité de l'élection d'Israël. Donc sans rentrer dans des déviations, des dérives au niveau culturel, voyez, au niveau mystique, au niveau légaliste, mais nous sommes, voyez, nous sommes dans un processus de redécouverte des vérités bibliques. Pourquoi ? Jusqu'à ce que nous soyons arriver à la parfaite stature de Christ, jusqu'à ce que la maturité, voyez, vienne dans l'Église, l'Ecclésia, la compréhension de l'Ecclésia, la compréhension du royaume de Dieu, et ensuite la compréhension, eh bien, du gouvernement de Dieu. Voyez, le quintuple ministère, Le corps de Christ fonctionne par la coordination des ministères et s'édifie par l'exercice et la mise en commun des charismes. Le texte dans 1 Corinthiens 12, versets 4 et 6, je vous invite à prendre le texte papier, vous lirez grâce, charisme, charismata, grâce, diakonos, ministère, diakona, énergétanon, opération, voyez, œuvre. Les charismes sont donnés par l'Esprit. Il s'agit de qualifications spirituelles en vue du service du corps de Christ, dans le corps de Christ. C'est l'aspect charismatique du ministère du Saint-Esprit dans la vie du croyant et il désigne les dons spirituels, l'onction pour le service. Nous avons désespérément besoin du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12 et Romains 12 nous donnent une liste des charismes et par eux on libère la vie dans le corps et le corps s'édifie. Deuxièmement, il y a les ministères, les diakonos, les services sont donnés par Christ. Cela se traduit par service ministère. Il désigne la place que Dieu a pour chacun au sein du corps. Cela comprend le ministère de gouvernement, Éphésiens 4, 11. C'est un rôle de coordination, de formation, de direction, voyez, de vision et de direction. Vous voyez, cette structure n'est pas une structure hiérarchique ou pyramidale. Chaque membre est relié à la tête qui est Christ. Les ministères du gouvernement sont au sein du corps. Voyez comme, voyez, la meilleure image pour décrire le rôle, la position des ministères se trouve dans Éphésiens 4, 16. De lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Voyez, les ministères au sens large, tout forme de service. Chacun est appelé à servir selon les dons que Dieu lui a donnés. Les diaconies sont l'œuvre de Christ. Par eux, on aborde la structure et l'ossature du corps. Et ce sont aussi les œuvres, les opérations de Dieu. Ce sont les œuvres à accomplir qui sont préparées d'avance. Selon Éphésiens chapitre 2, verset 10, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. Alors, quels sont ces cinq ministères? On n'est pas là pour parler de pyramidal, de hiérarchie. On n'est pas là pour parler de titre ou de position. Mais on est là pour parler du don de Christ à l'Église, comme dans cette humilité, dans ce service pour le corps, l'édification. L'apôtre vit avec les leaders. Le mot-clé est fondation. C'est le système nerveux, on dira. L'apôtre va toujours vous défier, vous tirer en avant. C'est un homme de vision et de passion. On peut identifier à la vue concernant les cinq sens. Le prophète vit dans la présence de Dieu. Il aime la prière, l'intercession, la louange, l'adoration. Le mot-clé est révélation. Système respiratoire, hein, si on parle de l'image des systèmes. Le prophète aime prier, la prière et la respiration de l'âme. Et les cinq sens, lui, il aime entendre et écouter la voix de Dieu. Voyez, l'évangéliste vit avec les perdus, il veut toujours aller à l'extérieur et aime les gens de l'extérieur. Le mot-clé est proclamation, système reproductif. L'évangéliste donne vie, des gens naissent de nouveau. Le toucher, il aime aller toucher les perdus, les atteindre là où ils sont. Le pasteur vit avec son troupeau, il aime prendre soin des gens. Le mot-clé est restauration, on peut parler du système circulatoire. Le pasteur aime que tout tourne et que tout soit paisible. Le goût, système, voyez, les sens, le goût, le pasteur aime donner de la bonne nourriture, bien fraîche et bien parfumée à ses brebis. Voyez, l'enseignant vit avec la parole de Dieu, il aime étudier la Bible. Le mot-clé est éducation, édification. On peut comparer au système digestif, l'enseignant va amener de la nourriture solide. Et il a cette capacité de rendre les choses compliquées plus simples et plus digestes. Le sens et l'odorat, il sent ce qu'il doit enseigner, ce que les gens ont besoin pour croire. Vous voyez, les différentes caractéristiques, vous pouvez trouver cela dans le format papier en texte. Alors, quel est le but du ministère? Dieu a donné des apôtres pour que tout soit envoyé. Dieu a donné des prophètes pour que tous apprennent à saisir la pensée de Dieu et à communiquer. Dieu a donné des évangélistes pour que tous deviennent des témoins. Dieu a donné des pasteurs pour que tous deviennent le gardien de son frère. Dieu a donné des enseignants pour que tous connaissent la parole de Dieu. Voyez, la notion de ministère est toujours liée à l'amour, l'humilité et le service. et non pas à des titres, à la soif de pouvoir, ayant la mentalité de Christ, et dont chaque membre de l'Église a été libéré, équipé, envoyé dans la moisson. Les ministères sont là pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du service de l'édification du corps de Christ, voyez. Le but, ce n'est pas les cinq ministères, mais le ministère du corps, voyez. L'important, c'est le ministère du corps dans son entier. Alors, je termine en parlant d'Éphésiens chapitre 4, voyez. Ma conclusion concernant cette restauration de l'Église, et je vous invite réellement, non pas à rejeter l'Église, à mépriser l'Église, à critiquer l'Église, mais à prier pour que l'Église qui est plus, vous voyez, cette tendance que nous avons héritée à cause des siècles d'enseignement, vous voyez, à cause des puissances religieuses, toutes ces choses-là, nous nous sommes éloignés, eh bien, du modèle du livre des Actes, eh bien, sachez, frères et sœurs, Dieu a besoin de ceux qui aiment l'Église, pour prier pour l'Église et pour être, voyez, des agents d'édification, pour retrouver les premières vérités bibliques. Donc, ne méprisez pas l'Église, ne vous séparez pas de l'Église, parce que Christ a aimé l'Église, s'est livré pour elle, mais priez et soyez des agents, voyez, de cette réforme apostolique, parce que Dieu désire, eh bien, que nous puissions entrer dans la maturité. Éphésiens chapitre 4, quelque chose d'important. Paul pense de façon circulaire, voyez, la maturité ne vient que par la relation à la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous allons méditer cela sur les prochaines leçons. Qu'elle ne vient que par les cinq ministères, voyez. Éphésiens 4, 15 nous dit qu'il consiste à dire la vérité dans l'amour. Professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. Dans tout ce chapitre 4, et je vous invite réellement à méditer ce chapitre 4, parce que, vous voyez, il y a des fondements concernant la restauration de l'Église. La boucle, j'appelle ça les trois boucles de croissance. La première boucle de croissance, c'est Éphésiens 4, versets 1 à 6. Vous voyez, il nous parle, eh bien, de caractère, il nous parle d'unité, de l'esprit, de la triunité, de l'unité, eh bien, dans la doctrine. Éphésiens, chapitre 4, voyez, il nous est dit ceci: « Je vous exhorte donc, moi le Seigneur, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité, voyez, caractère, douceur, patience, supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Vous voyez, c'est une unité spirituelle et non pas institutionnelle ou dénominationnelle. Verset 4, « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. » Écoutez ceci, « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. » Voyez, notre unité est basée sur cette réalité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de la parole de Dieu, qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, voyez, que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, que Dieu est un Père et qu'il désire que tout le monde soit sauvé. Voyez, il y a une unité au niveau de l'esprit, mais aussi une unité au niveau de la doctrine. Et la deuxième boucle de croissance, c'est le numéro 2, donc la deuxième, versets 7 à 14. Je vous invite réellement à lire. Hein. Eh bien, il nous est parlé des cinq ministères en vue du perfectionnement des saints, verset 12, cela en vue du service et l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure de la parfaite stature de Christ. Voyez, dans les six premiers versets, on parle de l'unité de l'esprit, et là, du verset 7 à 14, nous parlons de l'unité de la foi. Voyez, le quintuple ministère pour un ministère multiple, démultiplié, et pour une maturité, pour une expansion, une explosion de la réalité, eh bien, de l'Ecclésia, qui est le peuple du royaume. Et la troisième boucle, c'est du verset 15 au verset 31, et je vous invite réellement à lire. Comment entrer dans cette maturité? Eh bien, il nous est dit de nous décharger, de nous dévêtir de l'ancienne, nous dépouillant du vieil homme, de l'ancienne nature, pour acquérir cette nouvelle nature. Vous voyez, que personne ne donne accès au diable au travers du mensonge, de la colère, de la médisance. Je vous invite réellement, je dirais, à lire ces textes, voyez. Et il nous est dit que nous allons croître comment ? En disant, en parlant la vérité dans l'amour, voyez. En parlant la vérité dans l'amour, cela va nous faire grandir jusqu'au Christ. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Vous voyez, grâce et vérité est venue par Jésus. Jésus est l'incarnation de la grâce et de la vérité. On ne peut pas séparer l'amour de la vérité et la vérité de l'amour. Accueillir le Christ, c'est accueillir l'amour de la vérité, mais aussi la vérité de l'amour. Vous voyez, nous ne sommes pas sauvés par la connaissance de la vérité, parce que la connaissance enfle, mais l'amour édifie, mais par l'amour de la vérité. Être chrétien, ce n'est pas connaître la vérité, mais c'est être en relation avec la vérité. Avec l'esprit de vérité, voyez, avec le Père des Lumières. Grandir vers la tête de Christ, c'est grandir vers cette double voie, voyez, vers la tête Christ et dans la pensée de Dieu. Alors prendre ce chemin de Christ, c'est le Christ et grâce et vérité. Marcher dans la compréhension qui est le Christ et le révéler au milieu de nous. Si nous privilégions la vérité au détriment de l'amour, nous privilégions un chemin de l'égalisme, mais si nous privilégions l'amour au détriment de la vérité, alors il y aura de la licence. Alors je vous invite réellement à prendre un temps et à considérer, eh bien, cette réalité de ce mouvement qu'on appelle la réforme apostolique. Et nous allons dans la prochaine leçon parler du mandat apostolique de l'Église, voyez. Nous sommes dans des temps alors que les temps s'accélèrent et nous voyons de plus en plus les signes du retour de Jésus, les caractéristiques de cette génération antichrist avec l'esprit de l'antichrist, avec ce gouvernement mondial. Sachez une chose, alors qu'il y a des ténèbres sur la surface de la terre, Dieu a un plan de restauration, un plan de réforme, un plan de réveil pour son ecclésia, afin que son ecclésia, eh bien, puisse se lever et briller dans le monde. Amen.